Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment Breton a encore une certaine actualité. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter encore aujourd'hui en dehors de son historicité? Je vais donc diriger votre attention sur un petit aspect de la pensée de Breton sur l'attente et son rôle dans la pratique d'une réflexion, d'une théorie actuelle assez récente. Je vais commencer par une citation. Il m'arrive de faire les 100 pas pendant des heures, entre deux numéros de maison ou quatre arbres d'un square. Les promeneurs sourient de mon impatience, mais je n'attends personne. Cette déclaration d'un certain commissaire L'Étoile, dans la pièce S'il vous plaît, écrite par Breton et Soupeau en 1920, a été évoquée par Breton dans un de ses entretiens avec André Parinaud, 30 ans plus tard, où il parle de cette posture ultra-réceptive et qu'il met en relation avec le hasard objectif. Je le cite. Positivement, il est vrai qu'il n'attend personne, puisqu'il n'a pris aucun rendez-vous. Mais, du fait même qu'il adopte cette posture ultra-réceptive, c'est qu'il compte bien par là aider le hasard. Comment dire, se mettre en état de grâce avec le hasard, de manière à ce que se passe quelque chose, à ce que survienne quelqu'un. Dans ma communication, je chercherai d'abord à dégager dans l'œuvre de Breton ses idées sur cette attente, une attente qui s'ouvre sur l'inattendu, et qui est donc le contraire de l'attentisme, l'attentisme qui consiste à différer toute décision jusqu'à ce que les événements s'annoncent de manière précise, qui est aussi le contraire d'une attente rationnelle, où l'individu utilise toutes les informations pour former ses espoirs, et qui est aussi le contraire d'une attente adaptative, où l'individu se réfère à ses expériences pour constituer ses espoirs. Je suivrai donc d'abord, dans un premier volet, cette disponibilité d'une attente sur l'inattendu que Breton définit comme, je le cite, soif d'errer à la rencontre de tout, pour voir ensuite, dans un deuxième volet, comment il est devenu actuel avec ses idées de nos jours. Le comportement du commissaire L'Étoile, que j'avais évoqué dans ma première citation, est aussi le comportement d'André Breton lui-même quand, quelques années plus tard, en 1924, dans Nadja, il écrit: On peut, en attendant, être sûr de me rencontrer dans Paris, de ne pas passer plus de 3 jours sans me voir aller et venir, vers la fin de l'après-midi, boulevard Bonne Nouvelle, entre l'imprimerie du matin et le boulevard de Strasbourg. Je ne sais pourquoi c'est là, en effet, que mes pas me portent, que je me rends presque toujours sans but déterminé, sans rien de décidant, que cette donnée obscure, à savoir que c'est là que se passera cela. Je ne vois guère, sur ce rapide parcours, ce qui pourrait, même à mon insu, constituer pour moi un pôle d'attraction, ni dans l'espace, ni dans le temps. Et dans la confession dédaigneuse de 24, il avait déjà déclaré: La rue, que je croyais capable de livrer à ma vie ses surprenants détours, la rue, avec ses inquiétudes et ses regards, était mon véritable élément. L'attente se fait dans le vent de l'éventuel et n'est pas orientée vers une chose précise, et Breton prend une position de guetteur devant les signaux énigmatiques et fugitifs de la vie. Aujourd'hui encore, écrit-il plus tard en 1934, je n'attends rien que de ma seule disponibilité, que de cette soif d'errer à la rencontre de tout, dont je m'assure qu'elle me maintient en communication mystérieuse avec les autres êtres disponibles, comme si nous étions appelés à nous réunir soudain. J'aimerais que ma vie ne laisse après elle d'autres murmures que celui d'une chanson de guetteur, d'une chanson pour tromper l'attente, indépendamment de ce qui arrive, n'arrive pas, c'est l'attente qui est magnifique. La position du guetteur, pour qui l'attente est magnifique, est aussi la position du tamanoir, du fourmilier à la longue langue que Salvador Dali avait dessiné pour l'ex libris de Breton, avec l'inscription en bas, André Breton, le tamanoir. Breton, qui avait d'ailleurs écrit un poème intitulé Après le grand tamanoir, s'est jugé, aussi lui-même, dans le dictionnaire abrégé du surréalisme, sous sa photographie collage, dont on avait parlé avant-hier, sur un papier qui constitue un jugement de l'auteur sur lui-même, comme quelqu'un appartenant à la famille des grands indésirables, parmi lesquels il évoquait le tamanoir. Ainsi, selon Marguerite Bonnet, Breton établit le fourmilier comme représentation emblématique de lui-même. Selon elle, je la cite, « L'image du fourmilier tamanoir peut très justement figurer pour Breton celle qu'il demande au poète, au-delà des apports des propos de sommeil ou de l'écriture automatique. Ainsi, le fourmilier est appelé à une signification plus large. Il représente l'attente, à la fois neutre et alertée devant les êtres et les choses, qui est pour Breton l'essentiel de l'attitude poétique. » Fin de citation. D'ailleurs, Marguerite Bonnet se réfère, selon Breton, comme source de l'animal, à un poème de Browning, mais il a rectifié un petit peu en disant que Breton a trouvé plutôt ce tamanoir dans les livres destinés à la jeunesse pour les initiés à l'histoire naturelle, etc. Le poète n'attend rien que de sa seule disponibilité, une disponibilité sans propos, il est un être en suspens. En allemand, on pourrait caractériser l'attente de Breton ou chez Breton par deux mots qui sont très près l'un de l'autre, warten ohne Erwartung, c'est-à-dire l'attente sans expectative. Donc il y a en allemand ces deux mots, Erwartung, qui sont très près l'un de l'autre. L'attente neutre et alertée, donc voulue, n'est pas réductible à une reconnaissance d'un écart entre un projet et sa réalisation. Elle a plutôt partie liée avec l'accomplissement et le non-accomplissement du désir. Ainsi, Breton a pu constater, je le répète, indépendamment de ce qui arrive, n'arrive pas, c'est l'attente qui est magnifique. Les circonstances extérieures du rapprochement des êtres et des choses semblent obéir à une nécessité intérieure née de l'attente et du désir. Elles sont liées au hasard objectif. Breton met sur le contingent, sur ce qui peut être ou ne pas être, se produire ou ne pas se produire. L'attente, qui selon Breton, provoque un état second dont la caractéristique essentielle est l'extralucidité, n'est pas seulement au-delà du principe de réalité, au-delà du nécessaire, elle est aussi au-delà du principe de plaisir. Elle est ce suspense qui se délecte parfois du « pas tout de suite ». Elle s'ouvre sur l'inattendu et elle est dans ce sens-là toujours l'attente de l'attente. Quand Maurice Blanchot, qui parle ici de l'attente de l'attente, envoyait en 1962 son livre « L'attente, l'oubli » à André Breton, il ajoutait une dédicace autographe qui mettait l'accent sur le rôle de l'attente chez Breton. Pour André Breton, on attente entre voir et dire, avec reconnaissance, avec affection, avec espoir, Blanchot. Pour Blanchot et aussi pour Breton, l'attente est une valeur en soi. Je cite Blanchot, « Quelle que soit l'importance de l'objet de l'attente, il est toujours infiniment dépassé par le mouvement de l'attente. » Breton, on attente entre voir et dire. Ce qui se constituera comme événement surréaliste est un signal dont on ne connaît pas directement le sens. Pour arriver à une rencontre, à cet événement surréaliste, il faut d'abord une surréale Wahrnehmungsbereitschaft, comme disait Karl-Heinz Bohrer, une disposition surréelle à la perception, pour arriver à la fin à ce paradoxe d'une illumination profane, profane Erleuchtung, comme disait Walter Benjamin, et pour pouvoir en parler après. L'attente chez Breton, c'est pour Michel Carouge, je le cite, le sixième sens qui nous fait percevoir les signaux du hasard objectif, Nadja, c'est le sentiment qui nous dicte ce comportement lyrique, l'amour fou, par lequel nous coopérons à la mise au jour des phénomènes du hasard objectif. Fin de citation. C'est cette attente qui est destinée, je le cite encore une fois, à mettre au jour et à interpréter les faits les plus singuliers de l'existence, dans lesquels se révèlent d'étranges interférences entre le subjectif et l'objectif, entre les rêves individuels et les événements de la vie matérielle et sociale. C'est ce sentiment de l'attente qui est si profondément enraciné au cœur de Breton, l'attente d'événements merveilleux et révélatoires. Fin de citation. Dans la même année, 1962, quand est sorti le livre de Blanchot, Breton avait réalisé un assemblage, un objet, un assemblage, qui se trouve aujourd'hui dans le Musée national d'art moderne, Centre Pompidou, et qui porte comme titre « Le grand tamanoir ». Le tamanoir et le poète, ces êtres en suspens, en attente à la fois neutre et alerté devant les êtres et les choses, retrouve d'ici, je crois, une représentation parfaite. L'attente chez Breton est une attente passive, contraire à la raison, contraire à elle-même, une simple attente, comme un sentiment durable, permanent. L'attente chez lui est d'une certaine manière un enchantement, un délire, dont parle aussi Roland Barthes dans ses fragments du discours amoureux. Elle n'est pas l'attente du poète d'être inspiré, mais c'est l'attente en soi qui se délecte du « pas tout de suite » qui constitue sa manière de voir la vie. « Mais où sont les neiges de demain ?» écrit-il en laissant les portes ouvertes au futur, au il y aura une fois, en mettant l'accent sur le hic et nunc, sur la disponibilité ouverte à tout ce qui arrive, sur l'inattendu. L'attente chez Breton est donc une marche sans but bien déterminée, quand il veut, je le cite, placer l'esprit dans la position qui me paraît poétiquement la plus favorable, quand l'imagination, pour lui, emprunte, quand elle n'est pas don, mais par excellence objet de conquête. Fin de citation. L'attente chez Breton est un hors du temps. Elle ne se soumet pas au fil du temps, mais elle est un temps sans fil, comme on a évoqué ces termes les derniers jours. La représentation du temps a changé. Pour la plupart des gens d'aujourd'hui, l'attente est un temps mort qu'il faut pallier, un temps linéaire qui ne semble pas avancer, un temps dans lequel on ne peut rien faire, ne pensant qu'aux salles d'attente, salles des pas perdus, l'attente dans une file, etc., etc. Ce temps mort, cette attitude d'attente ennuyeuse, avec ses gestes en suspens, évoque une thématique de l'histoire de l'art de nos jours, quand le peintre Edward Hopper aperçut dans l'attente l'un des états les plus emblématiques de l'homme moderne, quand il a inlassablement mis en scène une femme, un homme ou un groupe de personnages dans une posture d'attente. Un employé de bureau face à une baie vitrée, une ouvreuse de cinéma inoccupée, un couple sur le pas de leur porte, bref, des individus immobiles dans une expectative indéfinie, des expressions et gestes en suspens. Cette attente pure, ennuyeuse quelquefois, était aussi le temps d'une pause, de contemplation. On laissait le monde agir sur soi, on rêvait, on pouvait réfléchir, on pratiquait la patience. Mais cette attente est en train de se perdre dans nos sociétés actuelles, où l'on cherche à éviter toute attente, à tuer le temps. Aujourd'hui, trop de gens se laissent distraire de l'attente avec leur smartphone, partout, même au restaurant. L'attente, en tant que contemplation sans rien faire, est menacée de disparition. On surfe sur le net, on chatte, on joue sur l'écran, bref, on met sur les stratégies d'éviter l'attente par les médias. En allemand, on a parlé d'une mediale Wahrnehmungsstrategie, mediale Wartevermeidungsstrategie. Et par hasard, je viens de lire avant-hier sur le net que 75% des Allemands ont un smartphone, ce téléphone ordinateur, et voilà le problème. Ils prennent en moyenne, 88 fois par jour dans leurs mains. On a vendu dans le monde, dans les trois premiers mois de cette année, 294 millions de smartphones Android, suivis de 51 millions de smartphones Apple. Les interruptions permanentes par le smartphone amènent à une distraction permanente, une détraction permanente. On parle déjà d'une smartphonisation, d'une smartphonisation, quand les gens préfèrent l'appareil au lieu de se placer dans la réalité du présent. Comment la réalité présente est transformée, non dans une surréalité, mais dans une virtualité artificielle, ça se voit par la chasse récente aux Pokémon, ce qui est un exemple frappant. Les psychologues sont alarmés par la perte de l'attente et ils demandent le retour de phases de désœuvrement, de l'oisiveté. Ils appellent un « comeback » de l'attente, un regard sur les alentours qui permet des découvertes inattendues au lieu d'un regard permanent sur un appareil dans la main. Il demande aussi par là un retour de l'attente comme pratique sociale. Aussi, les psychanalystes, qui auparavant avaient peu médité sur l'attente, ont commencé depuis un certain temps à réfléchir sur l'attente sous un autre point de vue, celui de leur pratique et de leur théorie. Mais c'est un autre sujet dont je ne comprends pas grand-chose. Et c'est d'un autre point de vue que la sociologie a commencé de s'occuper de l'attente. L'attente comme phénomène social du quotidien, ainsi s'intitule un projet de recherche subventionné par la DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft, à l'Université de Constance. Breton avait exploré de nouvelles voies artistiques qui impliquent l'attente et ce qu'il nous présente dans son antirationalisme, dans sa mise en doute de la rationalité occidentale, dans le comportement de rupture dans le cadre de l'ordre social, dans sa découverte ou redécouverte de ce qui échappe aux études, aux certitudes de la conscience, dans son art de prêter attention à ce qui surprend et d'en imaginer une interprétation permanente, dans ses découvertes par hasard, pensant au rôle de l'objet trouvé ou de la trouvaille, tout cela vient d'être discuté dans nos jours sur le vaste plan d'un concept qui concerne le processus de création et aussi les rapports entre science, littérature, politique. Ainsi, la pensée bretonienne sur l'attente et sur le hasard retrouve son actualité aujourd'hui dans un autre vaste domaine. On évoque aujourd'hui de plus en plus une disponibilité sans propos, en suspens, qui est orientée vers le don de faire par hasard des découvertes heureuses, de mettre l'individu en état de grâce avec le hasard, de retrouver les aspects positifs de l'attente et du hasard, de postuler une attente sur l'inattendu, comme on l'a trouvé dans les pensées et pratiques de Breton. Serendipity ou la sérendipité. Je suis sûr que pour beaucoup d'entre vous, ce mot, qui a été déclaré mot de l'année 2009 par la Revue des sciences humaines, qui a trouvé son entrée dans le Robert en 2011 et dans le Petit Larousse en 2012, que pour beaucoup d'entre vous, ce mot est resté encore probablement inconnu. Ce mot-là est en train de devenir un concept majeur en épistémologie et ouvre de nouvelles voies pour penser les questions relatives à la création, à la découverte. Pour saisir le sens de ce terme, on peut lire dans l'argument de ce colloque de Sérisy datant de 2009, je vous vais lire un extrait, « La sérendipité est le don, grâce à une observation surprenante, de faire des trouvailles. Il a faculté de découvrir, d'inventer ou de créer ce qui n'était pas recherché. La notion est peu utilisée en France, pourtant, dans une société de plus en plus rationalisée, la créativité et le hasard ont souvent partie liée. » Ce colloque précurseur en France, publié en 2011, est suivi aujourd'hui par une vaste gamme de réflexions et de publications dans plusieurs domaines, dans les sciences, médecine, chimie, mathématiques, physique nucléaire, droit, urbanisme, dans les arts, littérature, musique, etc., la politique, la psychanalyse, le management et l'Internet. À ce jour, donc, la diffusion du concept de sérendipité s'amplifie, traversant de différents champs de la connaissance et de l'activité humaine. Pour expliquer brièvement ce concept multiforme, je suivrai ici quelques propos dans le livre de Sylvie Catelin, Sérendipité, du conte au concept, sorti en 2014, livre qui retrace l'évolution du terme et des conceptions de la sérendipité qui reprend en même temps les résultats de ce colloque de Sérisy. La sérendipité intéresse, pour Edgar Morin par exemple, je le cite, « la pensée complexe par le fait même qu'il met en relief le caractère créatif et génératif de l'aléatoire, de l'événement, de l'imprévu, de l'inattendu. » Elle est selon lui, je le cite, « l'art de transformer des détails apparemment insignifiants en indices, permettant de reconstituer toute une histoire comme c'était une pratique des surréalistes. » La sérendipité dont les deux composantes sont le hasard et l'esprit préparé est donc le don de faire une découverte inattendue. Elle est caractérisée par une rupture apparente dans la causalité et un fonctionnement aléatoire apparaît comme une disponibilité de l'esprit à l'improbable. Cette disponibilité est un facteur essentiel. Elle demande l'attente et un art de prêter attention à ce qui surprend. La sérendipité n'est pas un don inné, elle s'apprend, ni une simple découverte par hasard, car elle implique une posture active, un travail de repérage et d'interprétation. Le surgissement d'un élément accidentel, inattendu et surprenant entre en résonance avec l'imaginaire du sujet et permet à celui-ci de donner un sens aux faits observés. Il faut donc un esprit préparé. L'appréhension d'un fait inattendu suppose au moins la réceptivité à l'inattendu et la décision d'y prêter attention. Il y a donc un rôle de l'imaginaire et de l'inconscient dans la découverte. Et je cite ici, pour terminer mes propos à ce sujet, un dernier passage dans le livre de Sylvie Catelin. La sérendipité implique une réflexivité, une prise de conscience et une analyse de sa propre activité. Par essence imprévisible et non planifiable, elle ne peut être saisie que par le récit rétrospectif qui en reconstruit la genèse. La sérendipité ouvre les portes de la créativité et de l'imaginaire et elle incite le chercheur, artiste ou scientifique à se livrer à cet exercice qui constitue à prendre conscience de comment il découvre, à se dévoiler à soi-même certains aspects inconscients ou occultés de la découverte, tels les éléments non rationnels, les erreurs, les facteurs inconnus qui ont donné des résultats. Fin de citation. La sérendipité constitue l'émergence d'une conscience nouvelle et se lie à une compétence. Pour André Breton, on pourrait parler d'une sérendipité intentionnelle avant l'arrivée du mot. Nul moderne n'a éprouvé un plus intense sentiment de l'attente, avait remarqué Michel Carouge en parlant du surréalisme et de Breton. Pour lui, je le cite, ce sentiment extraordinaire d'attente qui brille de tous ses feux dans le surréalisme et surtout dans la pensée de Breton est la clé d'or de la liberté. Ce n'est pas une vaine impression subjective, c'est déjà un acte intérieur, c'est un desserrement de notre lien avec les courroies de transmission du déterminisme. Fin de citation. L'attente chez Breton est une attention particulière aux trouvailles du monde quotidien, au merveilleux quotidien. En attendant, on attend l'attente, comme l'écrivait Robert Desnos dans son texte l'homonyme A.U. André Breton, cet aventurier de l'inconnu, qui dans son œuvre était toujours orienté vers les reflets tremblants du futur, qui a mis l'accent sur l'inattendu, le hasard et l'attente, comme pour lui, le hasard, c'est l'attente réalisée, comme il dit, nous enseigne l'art de la sérendipité, la disposition fondamentale de l'être humain dans le processus de découverte et ainsi d'une prise de conscience et de la liberté illimitée. Il nous enseigne l'art de la découverte qui fait changer nos points de vue sur la réalité en le racontant. Par là, et pas seulement par là, bien sûr, Breton continue et continuera à avoir une actualité. L'attente, et je termine encore une fois avec les mots de Michel Carouge, c'est cette indomptable espérance capable d'affirmer, malgré tous les gouffres noirs, toutes les banquises, que la route de l'avenir est semée de rayonnantes merveilles. Je vous remercie de votre attention et j'attends la suite.